Radio Campus, il est 18h.
Joyeux anniversaire, Radio Campus. Joyeux anniversaire. 50 ans, ça y est. Un demi-siècle que tu berces nos jours et nos nuits d'un méli-mélo radiophonique. 50-50, moitié jeunesse, moitié sagesse, c'est toujours un grain de folie. Alors Radio Campus, comme tu n'es pas vieille, tu es vintage.
S'il vous plaît, elle bougale.
Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de Heureusement en France. Et comme tous les dimanches de 18h à 19h, nous allons faire un petit parcours de l'actualité geek ensemble. Et aujourd'hui, nous sommes trois pour animer cette émission. Il y a même François, je suis accompagné de Reynald.
Bonjour à tous.
Et de Dominique.
Salut.
Nous avons un petit sommaire assez bien fourni, assez varié, puisque nous allons vous parler un peu de jeux vidéo avec du retro gaming. Nous aurons un peu aussi de jeux de société, de la musique.
Oui.
Et peut-être des films, voilà. Qu'est-ce qu'on peut encore trouver d'autre? Et nous avons la semaine dernière accueilli les Arpenteurs de Rêve. Et on tient d'ailleurs à signaler que leur événement, c'est la semaine prochaine.
Samedi prochain, le 30 novembre, donc, à Aubourdin, à l'Espace Beaupré, de 10h à 18h. Et puis, c'est gratuit. Et si vous voulez... Donc, l'émission de l'année dernière, il y avait un petit concours. Donc, si vous écoutez l'émission, à la fin, il y a une question. Et si vous répondez à la question sur Facebook, vous pourrez remporter manuel du jeu Ars Magica Siege by Bitis, à venir retirer sur place, bien sûr, samedi prochain.
Voilà, avec les Arpenteurs de Rêve. Alors Dom, est-ce que tu voulais attaquer tout de suite en parlant un peu de musique?
Puisqu'il y a un... Tout de suite.
Bon allez, moi je craque la bulle. Je lui ai dit non et en fait si on va...
On l'a annoncé la semaine dernière donc il va falloir qu'on le passe.
Ah, je pensais à autre chose moi, je pensais que tu allais parler d'Eurovision.
Ah bah oui, parce qu'on, oui, en direct en ce moment. Ce dimanche, je me suis aperçu qu'il y avait l'Eurovision Junior. Donc en direct, je suis sur la chaîne YouTube et il y a des costumes magnifiques. L'Eurovision Junior, c'est terrible. J'ai écouté un petit peu tout à l'heure, c'est amusant parce que je me suis aperçu que c'était surtout des jeunes filles d'ailleurs qui chantaient. J'ai vu la représentante du Portugal, la représentante, et c'est bizarre parce que je me suis aperçu que je comprenais parfaitement le portugais et l'italien. Donc elle chantait en anglais.
Alors que les présentateurs, c'est un peu plus difficile. Alors,
c'est amusant, parce qu'après, on voit les présentatrices et les présentateurs qui arrivent, qui sont des adultes, des grands. Ils parlaient moins bien anglais que les gamins qui chantaient. Donc.
Alors pourquoi pas présenter une émission comme ça par des enfants, justement, pour aller jusqu'au bout du thème?
Pas mal.
Alors, cet événement est un petit apéro avant le...
la vraie le Eurovision qui arrive, je crois que c'est le 14 décembre, si je n'ai pas de bêtises. C'est dommage que ça ne soit pas le dimanche, parce qu'on aurait pu le faire en direct, et on aurait pu présenter, on aurait demandé à Radio Campus de nous réserver toute la soirée, pour qu'on anime entièrement toute la soirée l'Eurovision. Bon, peut-être l'année prochaine, on verra.
Voilà, donc la France est déjà passée dans cette Eurovision.
Très passée.
Avec une chanson, attention, boum boum, on passera...
Bim bam toi, elle a des paroles magnifiques, ça fait bim bam boum, dans ma tête il y a tout qui tourne, ça fait chute et puis blabla. Moi je dis, avec ça, si on gagne ou pas. On est en plein dans les votes là, en direct. Waouh, peut-être qu'on aura... Non, c'est tellement long. Non, on n'aura pas le résultat avant la fin de l'émission, je crois pas.
C'est la France qui parle, attention. C'est bien fait ça, ce direct.
Même les faux bruits d'ouvrage d'enveloppe.
Oh, c'est juste qu'elle a du mal à ouvrir. C'est un peu comme Renan. Il reste encore donc plusieurs pays à passer, donc vous pouvez écouter ça pendant l'émission, ça marche.
Un petit peu de chance, on aura le résultat avant la fin de l'émission.
Allez, parlons un peu de rétro gaming.
Tu avais parlé de vraie musique maintenant, tout à l'heure.
Non, je garde notre album découverte. Nous, c'est vrai que le rétro gaming est à la mode, ça ne se démode pas. Et on a de plus en plus de supports qui nous permettent, comme ça, à la maison, de pouvoir jouer à ces vieilles consoles, puisque la majorité ont été plus ou moins perdues ou sont devenues un peu collector, ce qui a augmenté le prix du
marché. C'est terrible, le marché de l'occasion, que ce soit sur Internet ou dans les brocantes, etc. Ou dans il y a des boutiques qui font que du rétro gaming, donc vieilles consoles, vieux jeux. Et il y a un vrai marché, une vraie cote, c'est un peu comme des œuvres d'art, quoi.
Et donc on a plusieurs consoles qui veulent essayer de prendre un peu le marché en proposant des solutions qui vont être un peu multiplateformes ou concentrées dans une petite manette par exemple. Mmh. C'est l'exemple de l'Analog Pocket. C'est cette console de rétro gaming qui est censée être moderne et qui ressemble un peu à une sorte de Game Boy.
Exactement, oui, c'est le look en fait. Avec l'avancée des technologies et la réduction, la miniaturisation des composants, etc., on arrive à faire tenir un ordinateur dans un téléphone. Donc ça, c'est pas. Dans une console qui est plus petite que la Game Boy d'origine, qui fait de ses 30 ans aussi, on arrive à mettre plusieurs consoles et c'est assez impressionnant. Alors là, l'Analog Pocket, c'est un exemple parmi d'autres, quoi.
Effectivement, elle propose quand même plus de 2780 jeux tels que la Game Boy, forcément, la Game Boy Color, la Game Gear, la Neo Geo Pocket Color et l'Atari Lynx. Voilà, ça fait quand même plusieurs jeux à tester. Alors après, est-ce que forcément on a envie de jouer à du Pocket pour faire du rétro gaming ?
Je me dis, si on a un téléphone portable un petit peu avancé, c'est mon cas, on n'est pas... Enfin, c'est vraiment... Moi, ce qui m'intéresse, c'est plus le principe. Mais en acheter une, je sais que j'y jouerai pas. J'ai encore ma Game Boy de l'époque, faut dire. Et je la sors même pas. Mais non, j'ai mon téléphone pour jouer. Donc,
t'as l'émulation sur ordinateur. La plupart des jeux sont tombés dans le domaine public, donc tu peux les avoir sans vraiment devoir télécharger illégalement. Enfin, c'est un objet. C'est vraiment pour quelqu'un qui souhaite avoir un objet pour jouer avec.
C'est vraiment purement le côté nostalgique. Il y a quelques semaines, on était à la fête du flip. C'est génial parce qu'on s'éclate pendant une journée complète, enfin deux journées complètes, on peut s'éclater avec ses potes, retrouver l'ambiance, retrouver un peu ses souvenirs de l'époque et montrer à ses enfants, de les amener, puis voilà à quoi on jouait, puis voir qu'ils sont accros, etc. Mais avoir un flipper chez moi, une console chez moi, je sais que ça va être pour décorer, quoi. Je vais jouer un petit peu, ou s'il y a des gens qui viennent, ils vont jouer un petit peu. Mais c'est tout, c'est de temps en temps, mais ça n'a pas remplacé les expériences des nouveaux jeux maintenant.
Moi, pour la nostalgie du flipper, je suis un peu moins d'accord, puisque j'aurais un flipper chez moi, je pense que après le carton au moins...
Au début, mais après...
Ouais, une ou deux fois par début, semaine.
Un par semaine, je m'attendais à ce que tu dises par jour, tu vois, mais même pas moi.
Non, ça va, oui.
Parce que le flipper, c'est pas comme une console, tu peux pas changer de jeu, tu peux pas changer la plaque du flipper, comme ça, dès que t'as envie.
C'est vraiment un objet de décoration. Enfin, même si maintenant, il y a des boutiques, enfin, des artistes, des artisans qui fabriquent des consoles comme ça, des bornes de salon décorées, customisées, avec des peintures, des graffitis magnifiques.
J'avais vu la Nintendo, mais toaster, donc il ressemble à un grille-pain. Donc tu mets...
Exactement.
Et ça, c'est vraiment magnifique. Alors, il y a pour moi l'une des meilleures consoles, en tout cas, que j'ai envie d'émuler, c'est la Neo Geo. Et j'ai testé ça à la Paris Games Week, c'est le Neo Geo Arcade Stick Pro.
C'est-à-dire qu'à l'époque, la Neo Geo, c'est une machine qui est assez grosse, la console elle-même est grosse comme un ordinateur portable de maintenant, on va dire, et les manettes étaient presque aussi grosses que la console elle-même, donc ça prenait de la place.
C'est la console qui remettait dans ton salon les mêmes graphismes, les mêmes sons que les bornes d'arcade que tu jouais et que les consoles... du moment, n'arrivait pas à atteindre.
Exactement. Ouais. C'était la même chose qu'une borne d'arcade.
Donc là, vous avez un petit stick qui doit faire 50 cm de large, qui a les boutons forcément de la Neo Geo avec le stick. Mm-hmm. Et à l'intérieur, vous avez un port donc USB-C avec une prise de jack pour mettre le son. Une clé USB et des jeux directement intégrés. Donc vous aurez plusieurs jeux de combat, King of Fighters, Samurai Showdown.
Tu la branches sur ta télévision en fait, ton moniteur pour jouer, c'est ça?
Effectivement, n'importe quel type de moniteur, fini le prise de tête avec la Péritel. Et même si l'apparence est un peu plastique, hein, forcément, on n'est pas sur la... Bon, après, quelle autre solution ils avaient à ce niveau-là, j'en sais rien. Mais
ça reste à un prix raisonnable, oui.
Voilà, faut pour ceux qui aiment la Neo Geo et qui aiment la sensation du stick, puisque c'est vrai qu'il y a plusieurs types de joueurs, hein, ceux à la manette, ceux au stick et ceux au clavier, trois petits points. Voilà, pour 160 euros, vous achetez donc un stick. Vous pouvez en prendre un deuxième pour jouer à deux sur les mêmes jeux, ce qui est assez bien fait. Donc,
il y a tous les jeux de combat intégrés dedans, etc.
Alors, il n'y a pas tous les jeux de combat, mais il y en a pas mal. Voilà, j'ai testé ça, j'ai trouvé ça assez sympathique.
Il doit en avoir une vingtaine de mémoire. Ouais. Mais après, tu vois, moi, je reste toujours un peu sceptique sur ce genre de matériel, parce que tu payes la marque en plus, parce que c'est du plastique. Je pense pas qu'au bout de 3-4 mauvais coups spéciaux, ton stick il te resterait pas dans les mains. Mais en même temps, quand tu suis un peu les chaînes de youtubeurs ou de chaînes d'électronique sur internet, tu sais comment mettre avec une petite clé USB, comment mettre dans une manette, par exemple Super NES, mettre un émulateur dedans, et c'est ta manette Super NES avec un
USB. Ça, c'est le truc qui développe beaucoup, les Arduino, etc.
Voilà. Et ça, tu le fais avec quoi? Une dizaine d'euros? Bon, si t'as déjà la manette Super NES, par exemple, tu vois.
Tu peux te fabriquer, si t'es bricoleur, si t'as du temps, si t'es passionné, tu te fabriques ta borne d'arcade à la maison, ta table intégrée, etc.
Moi, j'avais vu le mec qui avait trafiqué son Amiga à la Paris Games Week pour enlever le lecteur de disquette et ensuite mettre carrément un lecteur USB. Donc du coup, ces disquettes, il est chargé en ADF directement, il avait dû mettre une sorte de support, je trouve ça génial. Surtout que sur certaines consoles, et notamment au niveau de l'Amiga, on a une durée de vie qui est fixée, puisqu'on a une oxydation des composants à l'intérieur, ce qui fait que tu sais que si tu as gardé ton Amiga, par exemple, 10 ans dans le placard, tu le ressors, il y a peu de chances qu'il refonctionne, malheureusement.
Tu peux trouver les pièces, tu peux le nettoyer, etc. Il y a des kits impressionnants.
Alors, toujours dans le style de la Neo Geo, hein, alors pour ceux qui ont un peu du mal à situer, si vous vous souvenez de ces bornes arcades géantes, hein, où on jouait à des jeux de combat, les Pac-Man, etc., c'était souvent lié à la Neo Geo derrière. Et c'est parce que je regarde la photo du prochain produit qui est proposé, c'est la Neo Geo Mini Edition Samurai Showdown. Ouais. Alors là, on s'attaque au rétro gaming, mais surtout aux gens qui veulent un peu de design dans la maison ou qui n'ont pas beaucoup de place, j'en sais rien. Quand on parle d'une Neo Geo Mini, c'est vraiment très très petit. Hein, ça doit faire quoi 10 centimètres cubes, as-tu joué avec
petit, C'est plus petit qu'une manette, quoi. C'est plus petit qu'un téléphone, pratiquement.
Et voilà, avec le petit écran, fort heureusement, on vous donne un pack de manette avec. Mais bon, je pense que ça s'attaque.
Ça fait vraiment cheap, quoi.
Ça va sur la vague des mini consoles, comme il y a eu pour Super NES, il y a eu la décorer, mini Mega Drive, enfin. Ça continue, t'as de la demande, donc continue là-dessus. Quoi.
On va vendre à Noël, c'est ça, c'est le moment idéal.
Mais bon, on va pas se le cacher, si vous avez un Raspberry Pi chez vous, ça fait mieux le boulot, j'ai envie de dire. Et c'est...
Tu joues sur ton ordinateur ou sur le Raspberry branché sur ta télé géante en plus, et voir directement sur la télé, parce que si tu as une télé intelligente, une Google TV ou je sais pas quoi, bah tu peux télécharger dessus un émulateur, donc tu peux jouer directement sur ta télé, tu n'as même pas besoin de brancher un mini ordinateur dessus, quoi.
Le petit souci que je vois là-dessus, c'est que comme c'est une mini-console, forcément tu as un petit écran, on va dire 10 cm sur 10 cm, je dis ça au hasard mais c'est une moyenne, le fait que si tu la branches sur un grand écran, style une télé ou un ordinateur, l'image n'est pas prévue pour, donc tu vas avoir un flou, tu vas avoir des petites latences.
C'est toujours le problème.
C'est un peu dommage.
Alors, est-ce que ça vous dirait d'écouter un peu de musique, puisqu'on a un album, on l'a promis la semaine dernière, mais bon, on avait des invités, c'est toujours très difficile de passer la musique.
On a quand même passé un morceau à la fin, en générique de fin, de cet artiste magnifique.
Il est récurrent dans notre émission et également dans nos podcasts. Alors d'ailleurs, si vous voulez réécouter nos podcasts, n'hésitez pas à aller sur le site anotherpodcast.com. Vous pouvez aussi taper Heureusement en France, vous avez un Twitter, vous avez un Facebook, et vous pouvez aller aussi tout simplement sur le site de Radio Campus, cliquer sur les podcasts du dimanche de 18h à 19h pour l'émission Heureusement en France. Alors, qui a envie de présenter cet artiste aux multiples talents, qui a chanté sur le mur de Berlin.
Exactement, il y a 30 ans, pas jour pour jour, mais presque.
Et c'est pour ça qu'après, il a cassé.
Tu crois?
Alors, c'est un album de composition originale, mais aussi avec des reprises.
Pas mal de reprises, effectivement, puisqu'on parle du dernier album de David Hasselhoff. Il est sorti, il est dans les bacs, etc. Là, on peut le trouver, c'est sûr. Mais oui, une reprise au hasard.
Reprise de David Bowie.
Heroes.
Alors, il y a combien de pourcents de David Hasselhoff dans la voix?
On a l'impression qu'il y a un mix entre... Oui, c'est ça. Soit il imite très bien David Bowie, mais on a presque d'entendre l'original un peu trafiqué. Est-ce que David Bowie se retourne dans sa tombe ou pas? Je ne sais pas.
Bah, je pense qu'il fait ventilateur pour tout le cimetière, mais bon.
C'est pas sûr.
Tellement qu'il se retourne, mais...
Ah, c'est fou, là. La ressemblance, c'est ça. Il a pas vraiment fait à sa sauce. Si tu sais pas que c'est David Hasselhoff qui chante. Mm-mm.
Alors pourquoi?
Pourquoi
David? C'est vrai que dernièrement, David Hasselhoff, avec des clips tels que sur Kung Fury, a plus ou moins réveillé l'esprit geek de certaines personnes qui se sont dit waouh, mais en fait, c'est vrai. Il est devenu une idole malgré toutes les...
Les cultes.
Voilà, culte. Je garde le mot. Bon, il y en a plusieurs. On peut se reprendre une autre reprise. Lips, Like Sugar. Alors, Lips Like Sugar, c'est une reprise de Echo and the Bunnymen. C'était repris par Coldplay aussi. Ça va, c'est assez moderne, mais il y a beaucoup de chansons, on l'entendra tout à l'heure, qui plongent dans les années 80, comme s'il était un peu resté là-bas.
Je pense qu'il n'est pas parti du tout, d'ailleurs.
Il n'a jamais quitté les années 80. Pas désagréable.
Mais c'est surtout qu'on est silencieux alors que les micros sont ouverts. C'est très très rare. Un signe de... J'allais dire qualité, mais je m'avance un peu.
On n'a rien à dire parce qu'on n'a rien à dire.
Voilà. Tout simplement.
Parce qu'on est... Ou pas respect,
on est bouche bée.
Ou pas, mais...
On va va rester un peu dans le jeu vidéo, puisque c'est vrai qu'avec avec Xbox, tous ces nouveaux passes hein, qui essaient de faire un peu à la Netflix, de vous proposer un catalogue de jeux pour un abonnement mensuel, c'est Google Stadia qui essaie d'aller un petit peu plus loin en proposant justement un catalogue de jeux, mais aussi une solution de gaming.
C'est surtout ça, oui.
Virtualisée.
Quand tu veux jouer maintenant, alors si tu veux, si t'as pas la bonne console, etc. Ou alors soit t'as les moyens et t'achètes toutes les dernières consoles ou le dernier ordinateur le plus puissant, etc. Mais ça te revient cher. Ou alors tu utilises des solutions comme Shadow, par exemple, qui te permettent, depuis un ordinateur, on va dire, un peu moins puissant, de te connecter à un autre ordinateur qui va lui faire tourner le jeu, parce qu'un autre ordinateur plus puissant, parce qu'il a une carte graphique très puissante, beaucoup de mémoire, etc. Tu peux te connecter depuis ton ordinateur un peu léger, voire même depuis ton téléphone via un logiciel, et tu joues sur l'autre ordinateur à distance. Alors quand l'ordinateur est dans la même pièce, bah, c'est très rapide, il n'y a pas de problème, quoi, ça réagit très vite. Des fois, tu peux jouer aussi sur... Il y a des plateformes, tu peux jouer sur un ordinateur qui est relié, enfin un peu plus loin, via Internet, etc. C'est un petit peu ce que propose Google pour, je crois que c'est un petit peu moins de 10€ par mois, en sachant qu'il va quand même falloir acheter les jeux, attention. Et en fait, ce que tu loues, c'est pas tellement les jeux, c'est plus la location du logiciel, mais c'est un petit peu, tu joues sur les serveurs de Google, c'est eux qui, donc ton jeu que tu vas lancer. On pense notamment au jeu qu'on attend, enfin que beaucoup de gens attendent pour l'année prochaine, qui va être un peu le numéro 1, enfin ce qui va faire, ce qui attire du monde, c'est Cyberpunk 2077, qui va sortir en 2020 sur les consoles et PC aussi. Il va falloir pour y jouer à une console dernière génération ou un ordinateur dernière génération aussi, pour le faire tourner au maximum. Mais si tu n'as pas les moyens, pour donc 10€ par mois, et il faut acheter le jeu qui va coûter, je ne sais pas combien, entre 50 et 70 euros.
Il faut quand même acheter l'équipement Google Stadia. Enfin, tu peux acheter, ça c'est un équipement en plus. C'est juste une manette avec une sorte de dongle Chromecast. Comme ça, tu peux jouer sur ton mobile, sur ta télé, n'importe où.
Connecté, etc. Oui, t'as même pratiquement peut-être pas besoin d'ordinateur éventuellement. Quoi.
Et t'as surtout besoin d'une très bonne connexion
très
Internet.
Très bonne connexion, parce qu'il y a des gens qui ont testé en 4G ou avec un Wi-Fi suffisant. Ils disent qu'il faut au moins 4-5 mégabits. L'idéal, c'est d'avoir la fibre pour que ça soit bien stable. Et en fait, quand tu utilises ta manette ou le clavier ou peu importe depuis chez toi, les commandes partent sur les serveurs de Google qui font tourner l'ordinateur grâce à leur puissance pratiquement illimitée et te renvoient les images. En fait, ce n'est pas tellement les commandes, les impulsions de tes commandes ou de ton clavier qui vont prendre la bande passante, c'est surtout les images qui vont arriver. Surtout si tu choisis de jouer en 4K ou je ne sais quoi, parce que tu as la dernière télé ou bientôt en 8K, là oui, le flux d'images qui vont arriver, toi tu reçois simplement les images qui sont calculées sur les serveurs de Google et qui vont s'afficher sur ta télé. Là par contre, la bande passante, ça va être énorme. C'est même plus que si tu regardais un film ou une série, quoi. Voilà, il faut que ça soit stable et réactif et très rapide. Parce que quand tu regardes une série sur Netflix, si tu as un petit décalage, si tu as un peu de retard, c'est pas très grave, hein, puisque l'image va pas être en pause en permanence. Ça va être stocké, puis tu vas pouvoir le regarder en différé. C'est pas... Mais quand tu joues, que tu es en train de te battre sur un jeu de combat ou un FPS contre quelqu'un, au moment où tu tires ou que tu te déplaces, tu as envie que ton personnage se déplace tout de suite. Parce que si tu tires, tu vises un personnage et que tu tires dans ton fusil, et que tu. Si le temps que tu appuies, il y a 10 secondes de décalage au moment où tu appuies, ton ennemi, il a des fortes chances qu'il soit parti, voire qu'il soit déjà arrivé sur toi.
Et le temps que ton image rafraîchisse.
Voilà. Si tu joues à un jeu style Mario, où il faut sauter au-dessus d'un précipice, si tu as 2 secondes de décalage, c'est un peu dommage quand tu risques de crever très facilement. Et pour l'instant, ça ne serait pas encore super bien au point. À moins d'avoir une super, super, super connexion et d'être pas très loin des serveurs, c'est pas encore... Il y a même des gens qui ont testé, et sur mobile, ils ont une meilleure réactivité que sur leur ordinateur, par exemple, sur leur console.
Oui, mais il faut avoir un 4G assez limité. Maintenant, on sait que les fournisseurs, si tu es limité, après, on te réduit ta bande passante, parce qu'il ne faut pas abuser quand même.
Tu passes de 4G en 3G, voire H+.
Si t'es tout seul dans ton quartier, à ce moment-là, c'est bon, pas de problème.
Pas grave parce que la 5G arrive bientôt.
Eh oui, comme par hasard, tu crois qu'elle arrive bientôt, pas partout.
Oui, tout doucement. Bon.
Alors, si tu habites dans une grande ville, même en France, avec ça commence à s'installer, mais sinon, il ne faut pas y compter avant quelques années, quoi, que ça soit généralisé, qu'il y ait la 5G un peu partout. Quoi. Donc, ils espèrent là-dessus. Donc, en France, ça va peut-être falloir attendre encore un peu. Donc, il y a des gens qui s'étonnaient que tu devais payer un abonnement de 10 euros à peu près par mois, plus les jeux. Mais effectivement, ce que tu loues, ce n'est pas tellement le
jeu. Ce n'est pas le jeu du tout, ce n'est pas un Game Pass.
Tu joues l'ordinateur, c'est comme si tu...
En fait, tu loues le service de l'ordinateur qui gère le jeu.
C'est comme si tu avais un pote qui avait un ordinateur très puissant de dernière génération. Il dit, je pars un mois en vacances, si tu veux, pour 10 euros pendant un mois, je te prête mon PC. Mm-hmm. C'est pratiquement ça, quoi. Sauf que l'avantage, c'est que tu n'as pas besoin d'avoir l'ordinateur chez toi.
Et puis même pour ceux qui gèrent des serveurs sur le net, généralement, les serveurs sont loués. Ce n'est pas un serveur qui t'appartient. Donc, tu claques généralement une centaine d'euros par mois pour louer un serveur, mais c'est des serveurs d'une quarantaine de personnes, voire de 80 personnes, voilà, donc ça. Forcément le coût est réduit.
Pour l'instant, les jeux disponibles sur Stradia, le catalogue n'est pas énorme, mais bon, ça va venir petit à petit. Mais c'est assez étonnant de la part de... Enfin, il faut dire qu'il y a Apple qui a lancé à peu près le même service en même temps. Je ne sais plus comment ça s'appelle, mais c'est pas grave. Ce qui fait que les gens se demandent si Google, qui d'habitude prend du temps pour développer des technologies, il y a des laboratoires, des chercheurs très puissants, ils prennent le temps de bien tester leur technologie. Et au moment où ils les lancent, ça marche à peu près bien. Peut-être que c'est pas sûr que ça ait du succès, que les gens l'utilisent, mais au moins il n'y a pas trop de. Ça marche à peu près bien, les services qu'ils proposent, quoi. Et là, on a l'impression que ça a été sorti de façon un petit peu précipitée. C'était prévu pour quelqu'un. Mais comme Apple, en même temps, a sorti des services... Oui, c'est Apple qui a sorti des services équivalents.
Alors, le Apple Arcade.
Voilà, le Apple Arcade. Google s'est dit, on va peut-être le sortir en même temps, un petit peu juste avant Noël ou je ne sais quoi. Ils auraient peut-être dû attendre un petit peu, quoi. Quitte à attendre un ou deux ans. Surtout à voir que, effectivement, que les connexions de haut débit, très haut débit soient déjà plus généralisées. Quoi.
C'est surtout qu'ils ont acheté des jeux qui sont assez tendance en ce moment. Par exemple, Red Dead Redemption est disponible. Et c'est vrai que des gens se disent, tiens, je vais profiter d'acheter Google Arcadia. Donc c'est peut-être pour ça qu'ils sont dépêchés. Et ça leur permet aussi de faire une sorte d'étude de marché, à savoir est-ce que ça va fonctionner. Parce que c'est le grand doute. Hein, tout le monde s'est dit, ça va marcher vite fait. Les gens vont se rendre compte que... Avec la connexion Internet, c'est quand même assez restreint. C'est quand même un pari qu'ils font. Donc.
Moi, ce qui me préoccupe le plus, c'est effectivement la bande passante et la puissance que ça va générer. À ce moment, voilà, on sait que les serveurs, les connexions, les serveurs, les farms de serveurs consomment, demandent une puissance générale, font tourner.
Ça va pas sauver la planète.
En gros, c'est ça, ils sont en train de faire couler la planète. Et là, t'imagines, ils promettent que leurs serveurs seront capables de faire tourner des jeux en 60 images par seconde en 4K.
Ouais. C'est
Si t'es tout seul à jouer dessus.
C'est-à-dire, t'imagines la puissance, l'électricité pratiquement que ça va demander, sans parler de la bande passante pour envoyer toutes ces images à tout le monde. Parce que ça va être comme. Enfin, tu peux avoir. Je crois que c'est pas encore actif pour l'instant, mais tu pourras pouvoir streamer. C'est-à-dire, tu vas être en train de jouer et tu vas pouvoir diffuser tes images. Les gens pourront voir. Donc, tu auras des spectateurs qui vont rejoindre des adversaires, mais aussi des spectateurs qui pourront se rejoindre à ta partie et te voir et te regarder jouer. C'est-à-dire que ça fera d'autant plus de bande passante vers tous ces gens, vers tous ces spectateurs. Waouh!
Alors si on prend par exemple, on fait un face-à-face par rapport au marché console, prenons la Xbox qui va sortir prochainement, qui sera sûrement à 400-500 euros. Là, avec le Google, vous payez 10 euros
par mois,
donc 120 euros par an.
Si tu as une télé connectée, tu n'as même pas besoin d'ordinateur ni de console chez toi.
Et généralement, en 4 ans, vous allez devoir changer de console, et dans les deux cas, vous achetez vos jeux. Donc...
Ouais. Ce qui est intéressant, c'est de voir quelque chose dont on avait discuté. Si, parce que quand tu achètes un jeu... que ça soit une boîte en magasin ou de façon dématérialisée, pour l'instant, si je ne dis pas de bêtises, tu peux pas encore, enfin, il est à toi à vie, quoi. Tu ne peux pas le revendre. Normalement, tu n'as pas le droit de le revendre, etc. Est-ce que plus tard, si j'achète effectivement le prochain Cyberpunk de 1077, je m'abonne à Stradia, j'achète, j'ai mon ordinateur actuel, mais s'il tourne suffisamment et que j'ai la connexion pour, je joue, et puis au bout d'un moment, au bout de 3 mois de Cyberpunk, je dis, soit j'ai fini le jeu, soit il ne m'intéresse pas, etc. Est-ce que je peux le revendre à quelqu'un d'autre avec mon abonnement Stradia, etc.
Donc qui va gagner entre Google...
Ça c'est un peu intéressant. Quoi. Ouais,
mais justement, est-ce qu'ils n'ont pas prévu les clauses de Stradia ne m'intéresse plus, est-ce que je peux essayer de refourguer mon compte avec mon mot de passe?
Si je connais quelqu'un qui est intéressé, tous ceux qui ont un abonnement Netflix, ils connaissent un ami à qui ils prêtent leur compte, etc. Soit je donne mon compte, je donne mes identifiants à quelqu'un d'autre, mais qui jouera avec mon compte à moi, donc ça sera toujours mon compte à moi. C'est-à-dire quand il voudra acheter, peut-être qu'il mettra sa carte bleue pour acheter les jeux, bon, ça, du coup je ne vais pas être dérangé. Mais ça serait bien que je puisse céder mon compte à quelqu'un d'autre et qui puisse jouer avec. Quoi. Ça va forcément venir. Quoi.
Ou même offrir des jeux, tu en achètes comme oui, Steam fait, tu offres un jeu et puis en même temps que tu joues, parce que justement tu vas vouloir jouer avec tes potes, mais est-ce que cela pour l'instant ils le portent
Et si j'ai, déjà Red Dead Redemption, est-ce que je peux dire à Google, j'ai déjà le jeu? Non, ils veulent pas, il faut que je le rachète.
Pour l'installer sur nos PC à nous.
Ouais, comme par hasard. Je peux pas envoyer ma boîte de jeux à monsieur Google avec le DVD pour qu'il installe sur son serveur? Non, ça va pas marcher non plus, ça.
Mais avec, avec une enveloppe pour qu'il me le renvoie après.
Mais du coup, tu n'as pas le support sur d'autres plateformes, du coup. Enfin,
c'est ça qui serait bien, c'est que j'achète au hasard. Bah, je vais redire Red Dead Redemption sur ma Xbox et on m'offre une PlayStation au prochain Noël. J'ai envie d'y jouer sur celle-là parce que je trouve que les graphismes sont meilleurs, peu importe quoi. Je peux pas. Il faut que je rachète le jeu ou je peux pas aller les changer. Ça serait bien qu'un jour ça arrive, quoi. On puisse acheter le jeu auprès de l'éditeur et quelle que soit ta plateforme, tu peux passer de la lot. Quitte à payer 10% du jeu, tu vois. Sur un jeu à 50€, ça fait 5€ et ça me permet de jouer en plus. J'aurai la même version sur Xbox, sur PC, sur Steam, sur Stadia, sur Game Boy, non, peut-être pas. Mais,
mais en parlant de jeux, justement, parce que tu as pas mal de jeux qui gèrent les comptes. Tu te connectes à un jeu, il te reconnaît, il te redonne ta progression, mais tu as aussi des jeux qui conservent des sauvegardes.
Exactement.
Et donc là, les sauvegardes seront sûrement gérées aussi de leur côté. Donc s'il a la moindre problématique, quel est le retour client qu'ils peuvent faire? Parce que ça sera de leur faute. C'est pas juste toi, ta console, qui a eu une surtension et qui a viré tes sauvegardes, donc tu t'en prends qu'à toi-même. Mais là, de leur côté, comment ça se passe? On ne sait pas.
T'inquiète, on réplique bien tes données.
Ouais, mais.
Donc là, on a le PlayStation Now, le Xbox Game Pass, on a le Apple Arcade, le Nvidia GeForce Now et Shadow, qui était une des
c'est
premières.
C'est un logiciel que, si je ne dis pas de bêtises, qui était géré par Nvidia, je ne sais plus. Mais oui, moi j'avais testé, c'est un logiciel que tu pouvais télécharger, il y avait une version payante, premium.
Et tu pouvais linker ton compte Steam, Epic, Blizzard, Ubisoft. Et justement, c'est là que PlayStation Now et Xbox Game Pass vont souffrir, c'est que les autres proposent des jeux qui sont disponibles sur les deux plateformes, alors que PlayStation ne va pas le faire. C'est peut-être là qu'ils marqueront des points.
Où et quand vais-je pouvoir jouer à mes jeux? Est-ce que je peux y jouer dans le métro? T'imagines, tu pourras jouer à des jeux en 4K sur ton. T'es dans le métro avec une bonne connexion 4G, tu pourras jouer à ton jeu 4K. Ah, enfin, alors que maintenant, dans le métro, tu joues à des petits jeux aussi, Candy Crush, etc. Enfin, ça dépend de la pièce. Parce que si t'as une connexion qui n'est pas limite, tu peux pas jouer forcément à un FPS ou quoi que ce soit. Ça commence à venir.
Tu joues à Mario Kart.
Tu pourras jouer au dernier jeu à GTA V et compagnie.
Après, c'est surtout aussi pour jouer, par exemple, avec ta tablette sous la couette, ou tu branches un USB la manette. Et t'es tranquille. T'as pas besoin d'aller sur la console, la télé, repasser dans le salon. Non. Là, t'as une bonne tablette assez grande au niveau écran, tu te fais plaisir.
Tu joues avec ta manette sous la couette, oui, c'est bien. J'ai Open Your Eyes de David Hasselhoff comme chanson de thème, le single. Et là, on part dans les années 80.
Ah oui, la typique. High fashion stores, law and order has done their job. Prisons filled while the rich still rob. Assassination politics, violence rules within our nation's midst. Well, ignorance is their power too. C'est moi où ça sonne un peu comme du Christopher Lee. Non, moi ça m'a fait penser à Kraftwerk.
La voix jeune, alors parce que là. Enfin,
le style, hein. Est-ce que ça te donne envie d'ouvrir les yeux, ça?
Mais il a pas dit fermer les oreilles, c'est les yeux.
Une petite reprise avec Sugar Sugar.
Bonne grosse reprise, oui.
C'est de qui ça? C'est The Archies. 1969.
You are my candy.
change de voix chaque chanson, ça c'est fort.
C'est lui qui chante, je commence à avoir des doutes. Et sur cette chanson-là, il est accompagné de Steve Cropper. Alors Steve Cropper, les fans des films cultes, c'était un des membres des Blues Brothers. C'était le barbu.
En fait, la voix, elle est juste assez trafiquée pour qu'il ait pas besoin de pousser. Il a juste la posée.
Ah oui.
Mais bon, en même temps, vu son âge...
C'est généré par intelligence artificielle, je vous le donne en mille. Petite, allez, c'est parce que on a la moitié de l'émission, on peut se le permettre. On était plus inspiré que tout à l'heure. Hein. Après, en même temps, on avait pris deux belles chansons quand même. Sur Radio Campus 106.6, il est 18h37, vous écoutez du David Hasselhoff,
oh là là.
Vous n'avez même pas besoin de dire merci. On va continuer cette fois-ci en parlant d'activités ludiques, on va vous parler un peu de quelques tests qu'on a pu réaliser dans le domaine du jeu de société. Et c'est vrai qu'on a parlé longuement, durant des émissions précédentes, d'un jeu de cartes qui est développé par celui qui avait initié Magic, hein, c'est bien ça?
Ouais, Richard Garfield.
Ça s'appelle Keyforge, et c'est un jeu où vous achetez un deck, hein, généralement entre 8 et 10 euros, et vous avez ensuite...
Un deck unique.
Voilà, un nom unique, des...
Tu veux qu'on l'ouvre?
Oh, on va l'ouvrir
non,
en
non,
direct.
Non, non, ah, non. Non, je voulais passer, mais là, il vous donne l'impression d'être fermé, c'est une des premières innovations de cette nouvelle extension. C'est que là, j'en profite d'en parler justement, c'est que là, les decks sont déjà ouverts, mais la boîte a l'air d'être fermée par rapport aux deux anciennes extensions. En fait, il y a juste...
Ils ont changé un petit peu les packages.
Ils ont changé le packaging, où tu peux l'ouvrir sur le côté et sortir le... En fait, ça devient une vraie boîte.
On avait un petit peu de mal à ouvrir. Enfin, tu déchirais ta boîte si tu avais envie de la garder, c'était dommage.
Sauf que le mec, il ne connaît pas, il va direct essayer de mettre
ça. Voilà, et c'est pour ça que je vous les ai donnés en disant « Stop, je ne veux pas !» Mais c'était votre premier réflexe, ça a été de dire le paquet est fermé alors que le paquet est ouvert.
Donc Keyforge est sorti il y a
un an,
il y a juste un an. Il y a eu une première extension, donc dans le jeu de base, il y avait sept races différentes.
Sept races. Ouais.
Dans la première extension, c'était les mêmes races, mais il y a des nouvelles cartes, je ne sais plus combien, 150, 200 cartes.
Alors il y a eu 370 cartes, mais avec 200 nouvelles cartes.
C'est ça, 200 nouvelles cartes, il y avait. Et là, par contre, une des nouveautés de ces nouvelles extensions, qui s'appelle Collision des Mondes,
Belle boîte violette.
Eh bien, oui, la couleur a changé, c'est vrai, pour qu'on reconnaisse.
Et le, pour info, la première boîte de Keyforge était rouge, la seconde extension de Keyforge était bleue. Et donc, quand tu fais rouge et bleu, ça te donne...
Mais alors, la prochaine, ça sera quoi ?
Ah, la question !
Et donc, une autre nouveauté, c'est qu'il y a, parmi les 7 races de base, il y en a 2 qui sont mises en pause. Elles sont pas perdues, hein, les cartes existent toujours.
Pour les puristes, c'est Mars et Sanctum.
Mais il y a deux nouvelles races qui viennent de rejoindre l'univers de Keyforge.
Donc, République Saurienne et Grande Nova Alliance, toujours pour ceux qui y connaissent.
Est-ce que ça rajoute une couche de gameplay en plus ?
Le principe reste le même. Il faut toujours forger trois clés pour gagner. Il n'y a pas de problème. Il y a des nouveaux mots-clés qui apparaissent, comme dans tous les jeux, hein, des nouveaux pouvoirs et bien sûr toutes des centaines de nouvelles créatures, etc. Il y a des petites mécaniques un petit peu différentes. On ne va pas détailler parce que si on ne joue pas, c'est compliqué.
Voilà. Là, pour cette nouvelle extension, la deuxième extension, il y avait l'effet de la carte Alpha et Omega, qui était Alpha, qui était quand la carte avait ce nom marqué dessus, c'était la toute première carte que tu devais jouer pendant ton tour.
T'étais obligé de la jouer en premier.
Mais si la carte avait marqué Omega dessus, t'étais obligé de la jouer en dernier. Et quand tu l'as joué, ton tour se terminait.
Voilà, c'est ça.
Et il y avait le troisième mot-clé de cette extension qui était... comment on appelle ça ? Enfin bref, tu pouvais mettre ta carte à la...
tu pouvais la mettre où tu voulais.
Où tu voulais dans ton champ. C'est voilà. Ça. Mobilisation ou un truc comme ça. Là, pour cette extension-là, ils ont créé un petit gameplay supplémentaire. Il y a les mots-clés protection, enragé, exalté. Protection, c'est quand la carte donne protection sur une autre carte, on met juste un token dessus, donc un jeton. Et quand la carte qui possède le jeton doit subir des dégâts ou être retirée du jeu, donc pour ceux qui connaissent le gameplay, ça commence à... Voilà.
T'enlèves
le jeton à la place. Et bien sûr, tu ne peux pas avoir plus d'un jeton protection. Enragé, c'est tout simple. C'est quand une créature devient enragée...
Elle attaque.
Non. La prochaine fois que tu l'utilises, elle attaquera. Donc, c'est pas forcément... tu n'es pas obligé de l'utiliser si tu choisis cette maison-là.
Ah.
C'est la prochaine fois que tu utiliseras la créature qui est enragée, elle devra attaquer.
Elle n'a pas le choix. Ah, d'accord. Voilà. Ah, donc c'est plutôt négatif. Voilà.
Et il reste exalté. Et exalté, c'est la petite touche un peu fourbe de cette extension. Dans la base, il y a le mot-clé qui est capturé. Capturé, c'est la créature va prendre un jeton ambre de l'adversaire et le mettre sur...
Le capture.
Le capture. L'adversaire est obligé de la retirer du jeu, la détruire, la purger, etc. pour récupérer son ambre. Exalté, la créature va pouvoir faire une action... un peu bourrine, en étant exaltée. Mais ce fait, elle va prendre un jeton ambre de la réserve qu'elle va mettre sur sa carte.
Ah oui, donc ça fait potentiellement une ambre disponible pour l'adversaire.
Pour la tuer. Voilà. Et donc si l'adversaire...
C'est plus puissant, mais ça peut favoriser l'adversaire.
Sachant que dans l'extension précédente, tu avais des cartes qui disaient s'il y a des créatures à vous qui a capturé des ambres à votre adversaire, vous les prenez avant de lui rendre. Donc ouais. Ça commence à comboter, ça commence à s'enchaîner.
Alors, du coup,
pas
avec ces trois effets en plus, enragés, etc., ça rajoute des pions, alors que l'avantage de Keyforge, c'est qu'on pouvait y jouer assez facilement avec ce qui se trouvait sur la table.
Les haricots, je sais pas quoi.
Ouais. De base, généralement, quelles sont les extensions, tu avais la boîte de départ pour deux joueurs, qui concerne tous les pions, les marqueurs, les tapis de jeu en papier, avec deux decks uniques dedans. Tu avais aussi le deck unique pour à peine une dizaine d'euros. Tu jouais et c'est à toi de te démerder pour trouver les pions. Et là, cette fois-ci, ils ont rajouté deux éléments que tu peux acheter. Si tu as déjà un peu tout le matos, tu peux acheter le deck de luxe pour 13 euros, 13-15 euros suivant la boutique. Et là, tu as les cartes, tu as un deck unique, donc ton paquet de cartes, et tous les jetons nécessaires pour jouer de ton côté. Voilà.
Pour éviter d'acheter la grosse.
Donc si tu as déjà les règles, le tapis de jeu, etc.
Je préfère quand même aller dans les magasins de bricolage, trouver mes propres jetons, etc. C'est plus sympa.
Et ils se sont dit, il y a quand même pas mal de joueurs qui vont acheter ça par, collection. Et donc, ils ont sorti, pour une cinquantaine d'euros ou quarantaine d'euros, ils ont sorti la boîte premium.
Ah oui, disons que ça va marcher, ça commence à marcher. Hein.
Voilà. Contenant deux decks uniques, un cadran pour les chaînes au lieu d'avoir une carte.
C'est vraiment des gadgets, quoi.
5 boîtes vides pour ranger les decks.
Ah oui.
Une boîte pour ranger les pions et marqueurs. Et quelques marqueurs.
Un coffret de collectionneur.
Voilà.
C'est la folie.
Et qui est déjà le coffret de... que tu achètes.
C'est vraiment...
C'est...
D'un côté, ça veut dire que le jeu a du succès, quoi.
Ouais, et puis c'est...
Le problème, c'est qu'en plus, il y a, avec les nouveautés, il y a des nouveaux tournois. Enfin, il y a la compétition est vraiment...
Voilà, puis maintenant, avec des tournois avec cash prize, avec, ça commence à monter en plan. Ouais.
C'est du sérieux. Moi, je reste quand même fidèle au premier, au jeu de base. Hein.
Ouais. Il y a juste la petite chose sympathique sur cette extension, c'est que le site non officiel Crucible Online, qui te permet de jouer Keyforge avec tes decks sur Internet, sur le site, donc c'est un site non officiel. Il y a une petite erreur aux États-Unis, c'est que Keyforge, donc Collision des mondes, est sorti quelques semaines avant la sortie mondiale. Donc,
on pouvait y jouer.
Les administrateurs du site, ils ont fait, on va prendre les cartes américaines, on va tout noter, tout lire, et hop, ils ont pu récupérer les cartes, c'est-à-dire que déjà le site est à jour et tu peux déjà y jouer.
Ouais, parce que ce qui est étonnant, enfin peut-être que ça en a du plus tard, c'est qu'il n'y a pas de site, il y a un site officiel, une application sur laquelle tu peux enregistrer tes jeux, trouver des tournois pas loin de chez toi, mesurer tes decks, les stocker, etc., les échanger éventuellement, mais pas jouer. Il n'y a pas de jeu où on peut jouer, pas de jeu vidéo ou d'application pour jouer façon Hearthstone ou Magic, etc., pour jouer en ligne avec ses potes en disant j'ai mon deck, je le scanne le petit code, etc., je joue et j'affronte mes adversaires. Il y a un site non officiel qui est fait par des fans, par des amateurs, qui est gratuit. On peut jouer. Il est toujours en anglais pour l'instant, je pense. Et il n'est pas encore en français.
Oui, parce qu'il est considéré comme un site mondial, donc tout le monde s'y connecte, donc forcément en anglais. Ouais.
Tu peux enregistrer tes decks et jouer, ou jouer avec les decks de tout le monde. Tu n'as même pas besoin d'acheter de jeu pour jouer à Keyforge, tu peux jouer en ligne. Quoi. Ouais, il n'y a que quand tu vas jouer au café dans les tournois avec tes potes, tu es obligé d'avoir un vrai jeu.
Ouais, en fait, si tu veux faire tourner avec ton deck, tu l'enregistres sur Crucible Online, mais sinon tu peux prendre n'importe quel deck.
C'est assez étonnant, mais j'imagine que ça viendra. Je pense qu'ils sont en train de travailler sur une version en ligne.
Et je pense qu'ils auraient dû le faire, ça aurait peut-être motivé les gens à justement acheter plus de.
Non, mais peut-être que je crois que c'est très bien calculé, je leur fais confiance, c'est très très bien. Ils calculent bien la sortie de leurs extensions, de leur timing, de leurs nouvelles cartes.
Ils ont prévu une extension tous les 6 mois et pour l'instant ils tiennent la route.
Alors tu parles de bon calcul, aucun de nous a quasiment acheté des packs de la deuxième.
Si.
Alors moi j'en ai
gagné. Elle est quand même passée assez vite. Hein.
Oui. Tous les 6 mois.
Tous les 6 mois, c'est pas moi. Si j'en ai gagné un dans un tournoi qui n'est toujours pas ouvert. S'il te plaît. Non, j'ai dit je ne passerai pas aux extensions, je reste fidèle à l'origine.
Le rétro gamer, même sur les jeux récents.
Je rappelle qu'on est en direct et qu'il y avait le concours Eurovision Junior. Et j'ai vu le résultat, j'ai suivi. Et c'est la Pologne. Alors c'était en Pologne parce que la Pologne avait gagné l'année dernière. Et c'est encore la Pologne qui a gagné cette année.
C'est bien, on fait tout dans cette émission.
Donc voilà, pour les gens qui hésitaient à nous suivre, qui suivent en même, ou qui viennent parce que le tournoi, tu vois, le concours vient de s'arrêter, ils sont venus, ils viennent de nous rejoindre.
Je vais allumer Radio Campus, exactement. Ça m'a donné envie. On a testé un petit jeu avant d'en rentrer dans le studio, et cette fois-ci les règles seront très simples à expliquer.
Mais pas léger. Alors c'est pas le premier jeu du genre, c'est un jeu qui joue avec des aimants, donc c'est vraiment un jeu style, un jeu d'apéritif. C'est exactement approprié puisque...
C'est un peu ce qu'on a fait.
Exactement. Et ça s'appelle Cluster avec un K, donc K-E-U-L-S-T-E-R. J'ai craqué, je l'ai acheté la semaine dernière à Ludigeek, parce que j'étais à Ludigeek la semaine dernière. Encore un énorme succès pour ce salon, qui n'a lieu qu'une fois par an, vivement l'année prochaine. Encore bravo à Mike et ses équipes, parce qu'un énorme succès à Ludigeek, encore une fois. Et j'ai craqué, j'ai vu ce jeu qui est démonstration, et j'ai craqué. Donc le principe, c'est que c'est une boîte, il y a 24 aimants, donc des beaux petits aimants. Ça ressemble un petit peu à des osselets. Mais ça ressemble un petit peu à des osselets. Et on est perturbé par le public. Je vous déconseille de jouer aux osselets avec, parce que toutes les pièces sont aimantées. Et en fait, on place une petite cordelette sur la table, on répartit les aimants entre tous les joueurs. On peut jouer à 4, bon, on peut jouer un peu plus. Si on a 2 boîtes, on peut jouer à 8. Et le principe, c'est que celui qui gagne, c'est le premier qui se débarrasse de ses aimants. Comment ça marche ? Le premier joueur place un aimant sur la table, au milieu de la corde, voilà, tout simplement. Et tous les autres joueurs, à leur tour, vont faire pareil. Sauf qu'au bout d'un moment, les aimants... Tu vas avoir de moins en moins de place pour les placer, donc ils vont se rapprocher. Alors quand tu poses un aimant, soit il repousse les autres, soit à un moment il y a des aimants qui vont s'entrechoquer. Et quand il y a des aimants qui s'entrechoquent, tu es obligé de les ramasser, tu passes ton tour et c'est au joueur suivant, etc. Donc si tu es un petit peu maladroit ou si tu n'as pas de chance, ou si quelqu'un a malencontreusement bousculé un peu la table et fait s'entrechoquer des aimants... Et c'est bien calculé, parce qu'en fait il n'y a pas la place pour mettre tous les aimants, donc forcément à un moment tu vas en faire bouger. Tu peux les mettre à la verticale, tu peux tirer un petit peu la corde pour essayer de mettre un des aimants, mais c'est assez stressant, c'est assez amusant, ça se joue très très vite. On a l'impression que ça peut durer très longtemps si tout le monde ramasse, mais au moment ça va se terminer. Et c'est très malin.
En plus, tu peux bouger la corde, pour l'avoir testé à Cannes en février, tu peux toucher la corde et la déplacer légèrement, mais comme il y a déjà les aimants qui sont déjà bien placés, tu vas les bouger et ça va les aérémenter en même temps, tu vois. Donc, tu as envie de faire de la place pour pouvoir poser ton aimant, mais tu risques d'en bouger d'autres et les faire bouger.
Ça, c'est très sympathique. Par contre, c'est à éloigner de toutes ces technologies.
Parce que la boîte est remplie d'aimants qui sont assez puissants. Donc j'essaie de ne pas trop l'approcher. J'ai la boîte là à la main, de ne pas trop l'approcher de l'ordinateur et des micros de Radio Campus. Mais il ne faut pas te promener avec le téléphone et le jeu dans la même poche, sinon t'es mal. C'est chez Borderline Edition.
Alors du coup, en magasin, quand ils empilent les boîtes, ça doit faire un sacré
bordel. Ah oui, tu prends
bordel.
Une boîte et tu as toutes les boîtes qui viennent avec.
Non, je suis pas sûr. Juste avant l'émission, on a testé. Tu as les aimants... se tiennent avec un doigt entre les deux.
Ah oui, pour dire qu'ils sont tellement puissants. Tu mets ta main entre les deux, les aimants tiennent. Ah, c'est assez puissant. Il ne faut pas jouer sur une table métallique. Ça pourrait être intéressant, je ne sais pas, mais je ne demandais pas. Donc, chez Borderline Edition, moi, je l'ai eu à 18 euros, je crois. Donc, on peut le trouver dans les boutiques. Et je pense qu'il va cartonner. Le jeu a beaucoup de succès. Le magasin était dévalisé. Donc, c'est vraiment le petit jeu style apéro que tu ressors et tu joues et tu enchaînes les parties. Et c'est vraiment pas mal. Cluster, avec un K.
Pour quitter les osselets, pour rester dans le jeu de société, il y a des dés en ce moment qui sont vendus à un certain prix.
Bon, dans la période des anniversaires, c'est les 45 ans de Donjons et Dragons. Alors tout l'été, nous, on a fait une espèce de petite historique, on est revenu sur toutes les déclinaisons de Donjons et Dragons. Et c'est les 45 ans, et ils ont sorti un set de dés très spécial, qui n'est pas donné non plus. Des dés incrustés de diamants, si je ne dis pas de bêtises.
C'est ça. Alors, pour plusieurs centaines de dollars, vous pouvez célébrer ces 45 ans de Donjons et Dragons avec des dés un peu sertis en saphir.
C'est pas mal.
C'est ça. C'est complètement inutile. C'est pas forcément très beau en plus. Hein. Oui, j'ai des dés en bois qui ont plus de classe. Mmh. Mais voilà, si vous avez 300 dollars à perdre.
En plus, leur base, c'est de l'aluminium. C'est pas forcément.
Vous avez la boîte de dés, vous avez votre D20, votre D8, votre D12, etc. Le tout dans une belle jolie boîte blanche.
Avec le logo officiel Donjons et Dragons dessus. Hein. En plus, moi, ça vient juste sortir, c'est sorti le 21 novembre. Mais bon, 300 dollars pour un set de dés, alors que en trouver, tu peux te les faire personnaliser éventuellement.
Ouais, et puis c'est un objet de collection parce qu'un vrai royaliste, il a ses dés, il a ses histoires avec les dés, ses aventures. Fin...
Alors, si vous voulez justement pas investir, vous pouvez dire un grand merci à Google.
Ouais, puis... ça va faire plaisir aux gnous qui nous attendent.
On titille les gnous avant nous, puisque Google a une fonctionnalité cachée qui vous permet.
Si tu vas à ta partie de jeu de rôle et que tu n'as pas tes dés avec toi,
mais que tu as ton PC ou une tablette.
Exact. Oui, même un téléphone, tu vas sur Google et tu tapes soit lancer des dés, lancer deux dés.
Roll a die.
Ou en anglais, roll a die. Et ça lance une petite fenêtre, une petite application graphique en haut de la page de recherche avec, et c'est très très bien fait en fait, tu as des dés, des 4, des 5, des 6, des 8, les dés classiques de donjons et dragons, etc. Et très facilement, tu peux cliquer sur un dé pour le faire roller, le lancer tout simplement. Ah, j'ai pas testé s'il y avait le son. Tu peux simplement, il y a des boutons, tu peux ajouter un dé, par exemple si tu veux lancer un D6 et un D8, tu prends un D6, tu rajoutes le début, ça se fait en 2 secondes, en quelques clics, et tu peux les lancer, etc. Il te calcule le score, bien sûr, etc. C'est tout simple.
Merci. Tu peux rajouter aussi, par exemple, tu lances 2 D6, plus ou moins quelque chose, pour faire les caractéristiques.
Alors c'est vrai qu'avant on utilisait des applications.
Il y a des applications, on utilisait des logiciels compliqués et tout.
Nous on avait utilisé, c'était Roll20.
Voilà, c'était une plateforme qui permettait de faire du jeu de rôle en ligne. Alors des parties, tu pouvais jouer avec tes potes au jeu de rôle, ce qui est avec tes potes étaient à l'autre bout du monde. Et chacun sort d'ordinateur, etc. On avait testé. Et le MJ préparait sur le site ses cartes, ses scénarios, les personnages, là, etc.
Tu chargeais MJPEG, tu foutais dedans, tu créais des petits pions, ensuite tu leur créais un nom, exactement. Tu leur créais des points de vie, tu pouvais leur faire une fiche de caractère.
C'est comme une partie de jeu de rôle autour de la table, sauf que le MJ, voilà, t'as pas de papier, tout est en ligne, les feuilles de personnages sont en ligne, etc. Et il fallait lancer les dés. Alors plutôt que de demander à chaque joueur chez lui de lancer les dés et lui faire confiance en disant oh, j'ai fait 20, oh, j'ai réussi mon attaque, etc. Non, les dés se faisaient via le logiciel, tu disais un D6 plus un D4 et tu lançais, etc. Puis il y avait une petite animation qui montrait les dés avec un son, je crois, qui simulait le son des dés qui roulent, c'était génial.
Mais on avait fait plusieurs parties.
Plusieurs
quand
parties.
Même. Mais ça demande beaucoup. Sur c'est beaucoup de travail pour le MJ qui doit préparer sa campagne, mais aussi après l'intégrer sur le site avec les outils fournis.
C'est un des problèmes du jeu de rôle, c'est que pour y jouer, il faut retrouver ses potes autour de la table pendant pas forcément une soirée, etc. Ou voire une demi-journée éventuellement. Le papier, le crayon, les dés, tout ça, c'est pas un problème. Le scénario, tu peux même improviser, mais il faut trouver du temps. Et il ne faut pas que les mecs autour de la table soient en train de jouer sur leur téléphone. Sauf s'ils sont en train de jouer pour lancer leur dé. Ça, c'est l'excuse.
Mais tu vois, comme je suis plus partant dans une partie de jeu de rôle à utiliser justement mon téléphone avec l'application, avec des dés que tu peux lancer, programmer, il y a quand même le petit point bonus sur cette roll a die sur Google, c'est qu'au début, tu avais juste lancé le dé de 6 pendant X années, et là, ils l'ont ouvert récemment donc, aux différents dés de 4, dés de 8, etc. Donc, ça sous-entend que potentiellement, tu vas avoir une amélioration encore dans l'avenir. Ils vont peut-être rajouter des choses, en enlever. Enfin, ça peut évoluer.
Alors, avant de se quitter, est-ce que quelqu'un veut parler de Rod Stewart ?
Ah oui, Rod Stewart, le chanteur anglais connu, mais ça, on l'a découvert, pas par hasard, mais il a fait son outing. Il a dit, j'ai un secret caché, un secret sombre, etc.
J'ai une passion.
Une passion honteuse. Que j'ai pratiqué pendant 26 ans dans ma maison, je crois que c'est à New York, il a une grande maison, etc., son grenier, et il est fan de trains miniatures. Enfin, miniature, je ne sais pas si ça s'applique à ce niveau-là.
Hein. Non, c'est même plus fan, hein, c'est l'obsession.
Donc ça fait à peu près, c'est ça, 26 ans qu'en cachette, en douce, enfin il n'était pas tout seul, hein, mais il a construit tranquillement un train miniature, enfin un réseau complet, mais ça fait quoi? Il fait 30 mètres de long sur 6 mètres de large à peu près.
Alors de mémoire, c'est 126 pieds sur 45 pieds.
C'est ça, ça fait à peu près. Ouais. Il a reconstitué une ville des années 40. Entière, et c'est un truc de malade quand on voit les photos.
Un vrai diorama, parce que tu as les planches, normalement tu n'as que le plateau, mais tu as aussi les planches sur le côté qui te représentent le ciel. C'est vraiment un diorama géant. Quoi.
Et on ne s'attendait pas à ça.
Quand tu prends les photos ou les vidéos, des fois, en regardant un peu loin, tu as l'impression que c'est une vraie ville.
C'est où c'est des images de synthèse, mais non.
Avec de l'eau, des bateaux.
Mais c'est ça, c'est étonnant. Quoi. Enfin, Rod Stewart.
Qu'est-ce qu'on peut faire avec de l'argent, quand même.
Ex-footballeur, ex-chanteur, il chante toujours, mais bon.
Malheureusement. En parlant de gens qui chantent toujours.
Justement.
On va se quitter donc avec cet artiste.
Notre album coup de cœur, on peut le dire maintenant. Hein. On peut faire notre outing, en effet.
Notre héros.
Exactement.
Et je vous invite à nous retrouver sur le site Heureusement en France. Vous avez le Twitter, vous avez l'Instagram, vous avez tout ce qu'il faut. Vous avez notre site fait à la main, anotherpodcast.fr. Et on se retrouve la semaine prochaine sur Radio Campus, 18h, 19h. On se quitte avec...
une magnifique reprise.
Merci, David Hasselhoff.
Reprise de Frank Sinatra quand même.
Il s'attaque au plus grand parce qu'il le peut.
That's life. That's what the people say. You're riding high in April, shut down in May. But I know I'm gonna change that tune when I'm back on top in June. I said that's life, and as funny as it may seem, some people get their kicks stomping on a dream. But I don't let it get me down. Cause this final world, it keeps spinning around. I've been a puppet, a pauper, a pilot, a poet, a pawn and a king. I've been up and down and over and down. And I know one thing, each time I find myself flat on my face, I pick myself up and get back in the race. That's life, I tell you, I can't deny it. I thought of quitting, baby, but my heart just ain't gonna buy it. And if I didn't think it was worth one single try, I jump right on a big bird